Radio Grand Ciel présente le quart d'heure de santé, une émission réalisée grâce à la participation technique et musicale de Claude Casal. Au micro, Christiane Blain. Aujourd'hui, je reçois le chirurgien Bernard Banco, qui a évoqué dans une première émission son parcours. Il est chirurgien généraliste et il était propriétaire, PDG de la clinique Bon Secours à Chartres. Bernard Banco, bonjour.
Bonjour Christiane.
Aujourd'hui, nous allons évoquer les hernies. Une hernie, en fait, c'est une affection fréquente et c'est pourquoi je vous remercie de bien vouloir évoquer ce sujet parce que on entend souvent des patients dire qu'ils ont cette affection, cette hernie. Alors, qu'en est-il exactement, Bernard Banco ?
Effectivement, c'est une affection fréquente. Tout le monde a entendu parler d'une hernie, quel que soit l'âge de la personne concernée. Et tout le monde sait ou a appris que ça se présentait sous la forme d'une tuméfaction dans la région inguinale, hein, droite ou gauche, et qui entraîne des ennuis plus ou moins importants, souvent supportables. Et puis de temps en temps, la tuméfaction qui contient souvent de l'intestin grêle se bloque un tout petit peu, sans nous, comme on dit, peut éventuellement s'étrangler et à ce moment-là provoque des phénomènes aigus et parfois difficilement supportables pour lesquels il faut faire un traitement.
Et on connaît ce phénomène depuis fort longtemps.
Alors effectivement, comme c'est un sujet un petit peu banal, assez courant, je me suis permis pour diversifier la chose.
Oui, mais ça, je trouve que c'est intéressant d'en faire en quelque sorte l'histoire.
Voilà, parce que finalement, la hernie ne date pas d'hier, évidemment. Les premières interventions, peut-être les plus anciennes, c'était les trépanations. Hein, tout le monde se souvient d'avoir vu au moins une fois un cercle sur un crâne, et on dit c'est un crâne du néolithique. Et donc déjà à cette époque-là, ils savaient faire des trépanations, des hernies, on ne sait pas. Ce qui est certain, c'est que sous Louis XIV, sous Louis XV, où on a commencé à avoir des corporations de chirurgiens, où l'académie de chirurgie s'est créée progressivement et a été mise en place, eh bien, ils avaient diagnostiqué la hernie, ils avaient des impératifs de logique, de respect de la maladie et du patient, et je me suis amusé à retrouver un certain nombre d'éléments dans un cours de chirurgie d'un dénommé Dionis, qui date de 1740, c'est-à-dire sous Louis XV. C'était à ce moment-là que l'Académie de chirurgie s'est créée. Et le Conseil de l'Ordre actuel ne nierait pas la qualité des phrases que j'ai trouvées, parce que Dionis dit « on ne doit pas tromper le malade, il ne faut rien faire sans son consentement ». Dionis est un chirurgien. Une opération n'est pas plus tôt finie que le malade et les parents interrogent le chirurgien, donc le malade devait aller pas si mal que ça après l'intervention.
Oui.
Et...
Mais quand même, le malade, on ne lui dit pas tout quand même.
Si, ben si, il le dit. Oui. Si, il le dit.
Oui, mais quelquefois, ça peut être imprudent quand même de dire alors qu'il n'est même pas, qu'il
est encore... Il faut le motiver, hein. Et je pense qu'à cette époque-là, ils devaient encore plus motiver leurs patients.
Ah oui.
Parce qu'ils n'avaient pas tellement d'anesthésie ou d'antalgique. Alors je ne sais pas, ils sont assez secrets là-dessus. Ils n'en disent pas ce qu'ils employaient, pourtant l'opium devait certainement exister, les opiacés peut-être, je ne sais pas. Et donc quelqu'un qui va souffrir, on doit lui le prévenir qu'il va avoir une souffrance, qu'on va faire une intervention, l'expliquer comment ça va se faire. Il faut lui donner le programme de la réjouissance, c'est sûr.
Réjouissance. Oui, donc effectivement, il y avait quand même le problème que nous n'avons pas maintenant, à savoir, on ne sent rien puisqu'on est endormi.
Voilà. Mais actuellement, le problème, c'est celui d'avoir le choc de l'anesthésie ou l'appréhension de s'endormir malgré soi aussi.
Oui.
Donc finalement, le problème est peut-être assez proche. Et finalement, ce qu'il dit là dans son livre, c'est tout à fait la vérité actuelle. C'est
donc
tout de même assez amusant de retrouver ces éléments.
Oui, oui.
Et alors, il décrit aussi la hernie. Aussitôt que l'intestin et les piplons ont été remis dans leur lieu habituel, parce que donc il y avait la suppuration, on a réduit la hernie, et à ce moment-là, le malade est soulagé, il ne sent plus de douleur.
Alors, quelquefois, il n'y a pas besoin d'opération.
Non.
Simplement des bandages, alors.
Oui, exactement. Donc c'est ce qu'il dit, lui, dans son texte en 1740, en disant il y a même des gens qui sont spécialisés dans les bandages. Ils ne font que ça, que le bandage hernière. Alors effectivement...
Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient ce genre de problème.
Bah oui, c'était au moins aussi fréquent que maintenant,
sans
doute.
Et maintenant, c'est très fréquent.
Actuellement, on opère la plupart des hernies, mais pas toutes. On va le dire tout à l'heure.
Vous en avez beaucoup, beaucoup, vous-même, dans votre...
Théoriquement, c'est l'intervention la plus fréquemment effectuée.
Ah, ouais.
Actuellement.
Et est-ce
sur
que
le plan national et sur le plan européen, sur...
oui.
Ouais.
Et est-ce que, justement, avec des bandages ou des palpants, ça pourrait...
Et donc, même actuellement, à cette époque-là, c'était déjà ça, mais actuellement, la façon la plus rapide et la plus simple de traiter une hernie, c'est de mettre un bandage.
Et quelquefois, est-ce qu'on opère alors que peut-être ça pourrait être...
Bien sûr, actuellement, oui, c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on pourrait peut-être se contenter d'un bandage, mais la demande est suffisamment forte, et puis l'activité des uns et des autres, tout le monde aime bien avoir toute sa possibilité physique, et donc à ce moment-là, on se fait opérer facilement. Ouais.
Oui,
d'autant qu'une hernie, c'est toute une histoire, elle a toujours tendance à augmenter de volume de façon de plus en plus importante, et le témoignage du maréchal de Villeroy est là pour le
Oui, lui, il a été opéré en 1698,
ouais.
C'est ça. Donc, c'est intéressant d'avoir fait cette recherche. Et ça se passait dans quel hôpital ?
À l'hôpital de...
Je crois que c'était la Charité.
La Charité, voilà. Oui, alors, l'hôpital de la Charité, personne ne le connaît. Évidemment, il a été détruit. Mais il a été détruit assez récemment, puisqu'il a été détruit pour construire la nouvelle faculté de médecine, enfin tout moins celle qu'on appelle actuellement encore la nouvelle faculté de médecine, c'est-à-dire rue de l'école de médecine, en plein Paris.
Et alors lui, ce maréchal, je crois qu'il avait une hernie qui était...
Importante, parce qu'il s'est fait opérer alors qu'il était assez âgé. Il avait la soixantaine à peu près.
Il était assez âgé, 60 ans.
Oui, mais à cette
époque-là.
Oui,
ouais. C'est ça.
Alors effectivement, ils avaient des centenaires, mais ils en avaient très peu.
Et une Fontenelle, Fontenelle, un beau centenaire.
Oui, oui. Ouais. Et à 60-70 ans, mais tout dépend de ce qu'on avait vécu dans sa vie. Quelqu'un qui était...
Lui, c'était très...
Et lui, il avait ce qu'on appelle une hernie inguino-scrotale. Donc c'est très bien décrit. Donc la hernie inguino-scrotale, effectivement, là ça devient très gênant. Autant à un stade de début, quand il y a une pointe hernière ou une petite tuméfaction plus importante, on peut supporter la gêne ou la douleur. Une hernie inguino-scrotale, c'est vraiment très important parce que l'orifice par lequel font protrusion les anses intestinales ou les anses grêles est important. Et le sac péritonéal, le sac hernière qui contient ces anses intestinales, est assez volumineux et peut avoir le volume d'une grosse orange, si on veut.
Ah ouais.
Et il contient des anses grêles, parfois le sécum, parfois même un petit peu de vessie qui a basculé. Enfin, ça peut être important, ça descend dans la bourse, qui devient énorme. Et on ne peut plus très bien marcher, on ne peut plus faire grand-chose. Mais encore à ce stade-là, on peut progressivement réduire toutes ces hernies et remettre un bandage, mais il tiendra moins bien parce que le poids de la hernie va le déplacer et tout ça. Donc maintenant, on opère, c'est sûr, à moins d'avoir une contre-indication cardiaque ou une contre-indication importante, où là encore, on dira, il faut mettre un bandage hernière et on ne fait pas d'intervention.
Ah ouais. Et est-ce que ça peut arriver dès l'enfance ?
Oui. Alors voilà, les deux contre-indications
d'opération.
Un point important, les deux moments de contre-indication de la hernie, c'est chez la personne âgée quand il y a des problèmes cardiaques ou autres qui empêchent de faire une anesthésie, mais aussi chez l'enfant. Quand j'ai commencé à intervenir à l'hôpital de Chartres où j'ai opéré pendant quelques années...
Pendant de très nombreuses années.
Le pédiatre chef de service des nourrissons amenait régulièrement des prématurés pour qu'on les opère de hernie.
Ah là là !
Donc ils n'étaient pas gros. Hein. Ah. Et donc parce que... C'était un petit peu l'habitude ou la mode de dire il faut les opérer, ça gêne tout le monde et tout ça, voilà.
Et vous opériez ?
Et on opérait. Bah oui, c'est ce qu'on nous disait de faire.
Ouais.
Et ça se passait bien, il n'y avait pas de problème. Mais on s'est aperçu que finalement, ces jeunes enfants, quand ils étaient opérés à cet âge-là, avaient plus souvent des problèmes d'apnée du sommeil et de mort subite.
Ah ! Et comment le sommeil pouvait avoir affaire à ça?
Enfin, tout du moins de mort subite. Hein. Théoriquement, c'est sans doute une apnée du sommeil. Et voilà. Et donc, on a arrêté de poser l'indication opératoire. On a même dit que c'est une contre-indication. Et actuellement, on opère les enfants que de 2 à 5 ans. Il y a un âge légal maintenant où on a vu que statistiquement, cette apnée du sommeil, enfin cette mort subite du nourrisson, eh bien, n'arrive pratiquement plus.
Alors, on vous mettait un bandage alors?
Et donc, on fait un bandage. Comme
ça se remettait tout naturellement.
Éventuellement, si le bandage a été bien fait, bien surveillé, tout ça, on referme, pas toujours, mais assez souvent, l'orifice.
Mais ça devait être un métier, alors, ça, le bandage.
Et donc, encore maintenant, c'est un métier. Il y a des maisons qui vendent du matériel médical et ils ont des bandages pour les nourrissons. Souvent, c'est des bandages en caoutchouc et qui permettent que ça soit bien supporté et d'avoir une bonne hygiène locale pour cet enfant.
Et vous-même, est-ce que simplement, vous avez pu remettre simplement en palpant, enfin.
Et donc, effectivement, c'est assez fréquemment qu'on a eu des mères qui arrivaient tout affolées parce que l'enfant pleurait. Elle avait remarqué, parce que toutes les mères regardent bien partout, ouais. Et comme il faut, qu'il y avait une petite boule anormale qui déjà était apparue quelques fois, puis là, était toujours là et ne voulait pas partir. Et puis, de temps en temps, le nourrisson vomit aussi.
Ah, oui.
Parce qu'il est en occlusion à cause de sa hernie qui est étranglée. Et donc, on sait fréquemment qu'on a des enfants jusqu'à un an, deux ans qui arrivent avec des hernies étranglées. Il faut rassurer d'abord la mère, rassurer l'enfant, et puis réduire les hernies, tout simplement.
Et ça, c'est simplement en massant.
Doucement. En faisant ça par rapport au cri de l'enfant, parce qu'il va toujours continuer à crier, mais de façon intermittente, et entre deux cris, on va pouvoir à chaque fois avancer un tout petit peu pour réduire la hernie et la remettre complètement dans le ventre. Puis après, tout est soulagé. Comme la mère s'est affolée assez rapidement, et ben l'anse-grêle qui était comprimée n'a pas été abîmée, la vascularisation a continué à bien se faire ou a repris facilement, et à ce moment-là, on peut mettre un petit bandage au niveau de la région inguinale en bande, et puis après elle va s'acheter à la maison de fourniture un bandage élastique, et puis elle aura la soin de le contrôler, de le mettre régulièrement, et de baigner son enfant comme d'habitude avec ce petit bandage en caoutchouc qui permet d'attendre la possibilité de faire une intervention chirurgicale, mais sous anesthésie générale, bien sûr, mais vers l'âge de 2-3...
Sous anesthésie générale.
Ouais. Ah bah oui, un enfant, c'est obligatoire. Ouais.
Parce que ça bouge.
Bah oui, on ne peut pas le convaincre, on ne peut pas lui parler et lui dire, écoute, bouge pas, tu auras un bonbon ou après l'intervention. Il faut obligatoirement l'endormir. Oui,
ouais, alors je comprends qu'on attende quand même.
Voilà. Et donc, comme il y a un petit risque de mort subite, on met le bandage et puis on attend gentiment. Chez l'enfant, il n'y a jamais de hernie étranglée. Elles sont toujours réductibles.
Alors
c'est
essentiel. C'est très important de le dire aux mères qui nous écoutent, de ne pas s'affoler en quelque sorte.
Mais il faut qu'elle aille voir le chirurgien pour qu'il réduise.
Très rapidement.
Par taxis, comme on appelle ça.
Eh bien, un grand merci, docteur Banco. Nous avons appris beaucoup de choses sur cette hernie et je crois que vous nous en reparlerez encore le mois prochain. Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pourrez réécouter cette émission sur notre site internet www.radiograndciel.fr. Merci, docteur Banco.
Moi, je me balance, je m'offre à tous les vents sans réticence. Moi, je me balance, je m'offre à qui je prends le cœur indifférent. Venez, venez vite, je veux tout, mais tout de suite, entrez dans ma danse. Moi, je me balance, des graphes et des cols blancs de vos consciences. Moi, je m'en balance, mon lit est assez grand pour des milliers d'amants. Je me balance au soleil de minuit, de mes nuits blanches. Moi, je me balance, chacun sera servi.